franceinter.fr.
Avec Bernard Guetta en direct de Cuba. Bonjour Bernard.
Bonjour Patrick.
Ce matin, l'allegro manantropo des Cubains.
Sans être les mêmes, leurs intérêts convergeaient. Pour les dirigeants cubains, la normalisation de leurs relations avec les États-Unis était la condition sine qua non d'une levée de l'embargo dont leur pays est victime depuis un demi-siècle. Pour les Cubains, c'était tout bénéfice, et pour les Américains, ça ne l'était pas moins. Extrêmement douloureux pour Cuba, l'embargo était un échec pour les Américains puisqu'il n'a jamais réussi à faire évoluer ce régime. 25 ans après la guerre froide, le temps était venu d'essayer l'arme des contacts et de l'ouverture, et ce tournant s'imposait d'autant plus que cette île de 11 millions d'habitants n'est plus une menace stratégique pour les États-Unis, plus la moindre, et que Washington donne ainsi satisfaction à toute l'Amérique latine en tournant symboliquement la page de l'époque où le gendarme américain et ses multinationales faisaient la pluie et le beau temps dans tout le sous-continent, et plus souvent la pluie que le beau temps. Avec cette normalisation, c'est le dernier vestige de la guerre froide qui s'efface, mais quel est maintenant l'avenir de Cuba ? Tout dit a priori que ce devrait être celui de tous les pays sortis ou sans du communisme, que la transition vers l'économie de marché devrait commencer par y créer les mêmes inégalités qu'en Europe centrale, en plongeant dans la misère ceux qui étaient déjà les plus pauvres, et que cette violence sociale devrait y être encore plus grande, car Cuba n'a pas pour voisin l'Union européenne et son économie sociale de marché, mais les États-Unis et l'endroit du plus fort. Ce scénario semble écrit, mais trois raisons laissent pourtant penser que ce n'est pas aussi joué qu'on le croit. La première est qu'une forte majorité de Cubains gardent une grande défiance des États-Unis. Partisans ou adversaires du régime, ils ne veulent pas redevenir un protectorat américain, et ce nationalisme cimente une volonté commune au régime et à la population de ne pas ouvrir grand les portes aux États-Unis. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas forcément un bouleversement qui s'annonce est que les contentieux à résoudre sont encore si lourds que ni la levée de l'embargo ni le rétablissement des relations diplomatiques avec Washington ne se feront en un jour. Quant à la troisième raison, elle est que la direction cubaine est bien décidée, l'empressement avec lequel elle reçoit aujourd'hui le président français le montre, à ne pas s'engager dans des relations trop exclusives avec les États-Unis. Non seulement elle diversifiera l'investissement étranger, mais elle tentera de limiter son impact sociopolitique en le canalisant vers des accords d'association avec des entreprises d'État et notamment avec celles que l'armée contrôle. Plus pragmatique que le parti, l'armée cubaine est déjà une puissance économique rompue aux investissements communs avec des entreprises étrangères. Son rôle économique et politique devrait d'autant plus affirmer que c'est son chef historique, l'actuel président Raúl Castro, qui a initié toutes les évolutions en cours. Ce régime est bien décidé à ne pas se laisser balayer par l'ouverture à laquelle il procède, mais tout est tellement anachronique, épuisante et ubuesque à Cuba, que les effets d'un appel d'air sont totalement imprévisibles.